La semaine dernière, nous avons commencé à réfléchir sur ce qu'est l'Église. Et on avait commencé par ce que disait Jésus sur l'Église. Vous vous souvenez ?
Je bâtirai mon Église.
Voilà, je bâtirai mon Église. On s'était juste arrêté sur ce petit verset en disant deux choses. Hein. C'est Jésus qui est propriétaire de son Église, hein, ce n'est pas nous. Et c'est Jésus qui fait grandir, qui bâtit son Église. Nous pouvons compter sur lui. Et je vous ai dit la semaine dernière que voilà, aujourd'hui, donc ça sera un peu un survol, mais nous allons, dans les dimanches qui viennent, un petit peu approfondir ces différents points. C'est voilà, quelles sont les marques, les critères d'une Église en bonne santé. Tout organisme vivant, s'il veut vivre, grandir, se multiplier, doit être en bonne santé. Si vous allez chez le médecin, il y en a qui vont chez le médecin plus que d'autres, mais la première chose que le médecin va regarder, c'est ce qu'on appelle les constantes. Pour savoir si oui ou non nous sommes en bonne santé. Qu'est-ce qu'il va faire en général? Il va regarder la fréquence respiratoire. Voilà. Combien de fois va les poumons s'ouvrent et se referment. Au-dessus d'une certaine fréquence respiratoire, vous êtes en hyperventilation. En dessous, vous êtes en hypoventilation. Donc, vous oxygénez trop, donc vous risquez de vous fatiguer, même le cœur. Et puis, dans l'autre inverse, c'est que vous ne vous oxygénez pas assez. Et donc, il peut y avoir un risque. Dans certains cas, on va vous mesurer votre saturation en oxygène dans le sang. On vous met un truc là, vous savez, avec la petite lumière rouge sur un doigt. Et ça va vous donner ce qu'on appelle le SPO2, la saturation en oxygène. Et il faut que ça soit au-dessus de 95%. Donc, vous voyez, 95% d'oxygène, de saturation d'oxygène dans le sang, tout va bien. Entre 90 et 95, c'est un peu médiocre. Votre vie n'est pas en danger, mais voilà, ça surveille. Puis on espère que, en vous donnant un petit coup d'oxygène, que ça va remonter. Pour Nathan, on regarde régulièrement ça. Et puis si vous au-dessus de 90%, bah là, vous avez des problèmes. Vous pouvez avoir des problèmes de santé puisque votre corps n'a pas accès d'oxygène. On va écouter la fréquence cardiaque avec le stéthoscope. À combien de battements par minute bat votre cœur? Quand vous êtes enfant, ça va à temps, et puis plus vous vieillissez, plus votre cœur va ralentir. Mais il faut que les chiffres soient entre temps et temps. Si c'est trop, bah, votre cœur va se fatiguer. Si c'est en dessous, bah, pareil. Votre corps n'est pas assez irrigué, donc pas assez d'oxygène, donc un risque pour votre santé. On va mesurer la tension artérielle. Moi, j'aime pas trop ça, quand ça serre, etc. Bah, pareil, c'est pour savoir, est-ce que le sang circule bien dans votre corps. Voilà. Si votre tension est trop haute, on va donner un médicament pour baisser. Si c'est trop bas, pareil, on va s'inquiéter. Si c'est trop bas, vous risquez un peu de tomber dans les pommes. On va regarder également la température. Hein, le corps humain, la température normale, vous savez, c'est entre 35 et 37 degrés. En dessous, vous faites de l'hypothermie, ça peut être grave parce que le corps a besoin d'avoir chaud. Au-dessus de 37 degrés, à partir de 38, on va commencer à s'inquiéter parce que c'est peut-être le signe qu'il y a une infection. Et donc, si vous avez de la fièvre, il y a un truc qui va pas. Et puis, peut-être que le médecin va vous recommander de faire des analyses d'urine pour voir... Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a un taux de sucre normal, un taux de sel normal, l'urée, il ne faut pas qu'il y en ait trop, il ne faut pas qu'il n'y en ait pas assez, l'albumine, tout ça. Si dès que vous avez des valeurs qui sont trop hautes ou trop basses, on va s'inquiéter. On va peut-être faire des analyses de sel pour chercher si tout va bien, pareil, est-ce que vous digérez bien? On va faire des analyses de crachat pour voir quelles sont les bactéries, est-ce que vous avez des bonnes bactéries dans les poumons ou pas, encore une fois. Des analyses de sang, voilà, on va tout regarder si tout va bien, quel est votre taux de globules rouges, globules blancs, etc. Et dès que vous avez une valeur trop basse, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le signe pour le médecin de mettre en place tel ou tel traitement. Je simplifie parce que je n'y connais rien en médecine, mais voilà, vous êtes tous passés par là, un moment de que le médecin vous écoute votre cœur, regarde votre tension, votre température, et puis vous demande de différentes choses. Si toutes les constantes sont bonnes, il n'y a pas de souci à se faire, tout va bien, vous êtes en bonne santé. Mais il suffit, comme j'ai dit, qu'une constante soit pas bonne pour que le médecin va mettre en place un traitement. Alors, c'est pas parce que vous avez la fréquence cardiaque un peu trop rapide que voilà, c'est grave, mais je vais vous prescrire peut-être un peu de repos, un peu de ceci, un peu de cela. Et plus vous avez des constantes qui ne sont pas bonnes, plus ça devient grave et vous êtes pas du tout en bonne santé. La raison d'être de ces constantes, c'est de nous permettre de savoir si oui ou non nous sommes en bonne santé. C'est aussi simple que ça, c'est des petits voyants, bah, vert, rouge, voilà, j'ai un voyant rouge, bon, il y a ça qui ne va pas, j'ai tous les voyants verts, tout va bien, j'ai tout qui est rouge, bon là c'est un peu catastrophique. Mais pour arriver à savoir si notre corps est en bonne santé ou non, il a fallu que des chercheurs, des médecins étudient le corps humain, comprennent que un corps en bonne santé, la pression artérielle, c'est de temps. Qu'il fallait tant pour un corps en bonne santé, il fallait qu'il y ait tant de pourcentage d'oxygène dans le sang, etc. Il a fallu étudier le corps pendant des siècles, des années, pour savoir à partir de quand on dit que le corps va bien et à partir de quand on dit que le corps est malade. Il a fallu le faire pour les enfants, les moins jeunes, les plus jeunes, voilà, parce que le corps évoluant, il fallait savoir, encore une fois, à partir de quand on est malade, à partir de quand on n'est pas malade, à partir de quand on s'inquiète, à partir de quand on donne un médicament, tout cela. Il en est de même pour l'Église. Nous devons découvrir ou redécouvrir ce que l'Église doit être. Qu'est-ce que l'Église dans sa nature, dans son essence? C'est quoi finalement les constantes de l'Église? C'est quoi la tension artérielle d'une Église? C'est quoi la fréquence cardiaque d'une Église? C'est quoi, j'imagine, je fais un peu ce parallèle, mais voilà. Qu'est-ce que l'Église dans sa nature, dans son essence? Qu'est-ce qui définit l'Église? Qu'est-ce qui distingue une église en bonne santé d'une autre? Quelles sont ces constantes, comme j'ai dit, les marques d'une église en bonne santé? Je vais faire une remarque très générale, parce qu'on peut dire, oulala, on va venir, est-ce qu'on est une église en bonne santé? Pourquoi je parle de ça? Aucune église n'est parfaite. Sauf si vous pensez que nous sommes une église parfaite. Et voilà, je n'ai pas trouvé d'église parfaite. En même temps, on pourrait voir, vous connaissez cette histoire, le tableau blanc avec le petit point noir. Il y en a qui vont voir un tableau blanc avec un petit point noir, puis il y en a qui vont juste voir le point noir. Le point noir, c'est la petite imperfection. Chaque église a son petit point noir. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en bonne santé. Inversement, beaucoup d'églises sont imparfaites, mais en bonne santé. Il n'y a pas d'église parfaite. La perfection, encore une fois, et je voudrais le préciser, la perfection n'est pas une marque de l'église. Ce n'est pas parce que vous êtes une église parfaite, vous avez un pasteur parfait, des gens parfaits, des chants parfaits, que vous êtes une église en bonne santé. Non. Une église avec des soucis normaux est une église qui va bien. Avec toute l'église de Franc-Comté, il y a des problèmes qu'on retrouve dans chaque église. C'est signe, finalement, que tout va bien. Seul Christ présentera à son Père son église dans un état de perfection. Vous lirez Éphésiens 5, 27, où les questions de Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église, et qui s'est sacrifié pour elle, et Jésus aime son église, et qui veut présenter à son Père une église sainte, irréprochable, sans tâche. Seul Christ présentera à son Père une église parfaite. Mais nous ne sommes pas une église parfaite. Nous voulons devenir une église qui est conforme au plan de Dieu. Alors ce matin, si vous sortez du culte avec plus de questions en sortant que là maintenant, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Je vous invite à lire deux textes juste pour introduire. C'est dans Matthieu 28, la fin de Matthieu. Vous connaissez ce texte, je veux dire, presque par cœur. Matthieu 28, les versets 16 à 20, vraiment la fin de l'évangile de Matthieu. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le deuxième texte que je veux lire avec vous, c'est Acte 2, à partir du verset 37 et jusqu'au verset 47. Donc juste pour resituer le contexte de ce texte-là, c'est le jour de la Pentecôte. L'Esprit Saint est venu sur les 12 plus Marie-Madeleine et quelques-uns, donc il y avait peut-être une vingtaine, trentaine de personnes. Pierre fait une prédication pour expliquer ce qui se passe en s'appuyant sur, en particulier, la prophétie de Joël. Et à la fin de la prédication, voici ce que nous lisons. « Après avoir entendu cela, verset 37 de Acte 2, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Changez radicalement, convertissez-vous, dans d'autres traductions, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don de l'Esprit-Saint. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême, et en ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun, et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple, d'un commun accord, ils rompaient le pain, dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ce qu'il sauvait. Voilà, avec ces deux textes, on pourrait déjà tirer quelques enseignements sur ce qu'est l'Église. L'Église, quelles seraient les marques de l'Église? Il y a cette notion de corps. On ajoute, enfin, l'Esprit ajoute des croyants à ceux qui étaient sauvés. Vous vous souvenez de la définition qu'on avait donnée de l'Église, hein? L'Église, c'est le rassemblement de tous ceux qui ont croit que Jésus est leur Seigneur et Sauveur. Il y a cette notion d'enseignement qui est importante, de garder l'enseignement que Jésus-Christ a donné. Allez par le monde, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et là, dans les Actes 2, 42, c'est y persévérer dans l'enseignement des apôtres. Un enseignement particulier, un enseignement qui se basait sur la Bible. On a cette notion aussi de communion fraternelle. Avec Matthieu 16, on peut même voir une question de discipline d'église. On ne l'avait pas évoqué dimanche dernier, mais quand Jésus dit, voilà, la porte du séjour des morts ne prévaudra pas sur l'Église, et je te donne les clés, tout ce que tu liras sera lié, tout ce que tu délieras sera délié. Bon, j'ai pas trop discuté là-dessus, mais on peut voir la question de discipline d'Église. Voilà, beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait parler, et c'est un peu ce que je voudrais vous faire ce matin. Il y a, d'une certaine manière, 9 marques d'une église en bonne santé. Certains, dans l'histoire, en ont cherché que quelques-uns. Les réformateurs, une église en bonne santé, c'est quoi? C'était une église où la parole était prêchée et les sacrements, le baptême et la scène étaient faits. Dans l'église catholique, c'est quoi une église en bonne santé? C'est une église qui se réunit autour de son évêque. Mais voilà, si on lit un peu plus profondément les Écritures, on se rend compte qu'il y a quand même plus que la scène, le baptême, la prédication ou la personne de l'évêque, il y a autre chose. La première marque, qui est peut-être la marque la plus importante, c'est ce qu'on retrouve dans le livre des Actes, c'est la prédication biblique. Comment les personnes sont converties? Parce que Pierre a fait une prédication se basant sur la Bible. L'Église se construit sur la parole de Dieu. Si vous lisez les Actes des Apôtres, vous verrez qu'il y a ce refrain qui vient régulièrement, c'est que la parole de Dieu grandissait. On voit où il y a les apôtres prêchent et les gens sont touchés, se convertissent. Il y a l'action en même temps de la parole et de l'esprit. Mais voilà, c'est un élément important. L'Église se construit par la parole. La parole de Dieu, par la prédication. Si nous affirmons que la Bible est inspirée de Dieu, qu'elle a toute autorité en matière de foi, de vie, de doctrine, c'est vraiment peut-être l'élément le plus vital. Est-ce que ma vie, ma prédication, je parle pour moi, mais pour vous aussi, ma lecture de ma Bible, mon enseignement que je reçois, que je peux avoir, il suffit d'ouvrir Internet, vous avez beaucoup d'enseignements, mais savoir, est-ce que ces enseignements sont fondés sur la Bible ou pas? C'est pas parce que je sors un verset, que je fais tout un enseignement là-dessus, que mon enseignement est biblique. Si je reconnais que la Bible est inspirée de Dieu, qu'elle a toute autorité en matière de foi, de vie et de doctrine, il faut que ce point-là soit vraiment le plus important. Tout en découle, finalement. Dans des milieux beaucoup plus libéraux, où on va remettre en question cette autorité de la Bible, tout est quasiment possible. Tu peux être chrétien et bouddhiste, tu peux être chrétien et faire n'importe quoi de ta vie privée, puisque finalement la Bible n'a plus toute autorité. Par contre, si la Bible, nous concevons que la Bible a toute autorité, c'est-à-dire que nous devons essayer au maximum de l'appliquer et en même temps essayer de la comprendre. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire au premier lecteur et comment appliquer cela pour nous. C'est pour cela que la prédication est un point important dans l'Église. Relisez les Actes, vous verrez que la prédication est importante. On a l'impression que les apôtres ne font que prêcher. Les épîtres, c'est presque des prédications. C'est des enseignements que les apôtres faisaient. Et on lisait. L'épître aux Éphésiens est l'exemple type d'une prédication où c'était d'église en église, on lisait l'épître aux Éphésiens. L'église ne se construit que par la parole. Si l'on veut qu'une église saine reflète de mieux en mieux le caractère de Dieu, tel qu'il est révélé dans sa parole, il est évident qu'il faut nous édifier en tant que communauté et nous exhorter à écouter, à étudier la parole de Dieu. qui est la source de toute vie et de toute santé. Elle nourrit, développe et protège notre compréhension de l'Évangile. Une prédication biblique n'est pas une prédication thématique, mais qui présente, explique, essaye d'appliquer un passage des Écritures. Ce que nous avons besoin, c'est de comprendre les Écritures. C'est ce que j'ai voulu essayer de faire avec un Pierre, c'est qu'est-ce que Dieu a voulu dire au travers de Pierre à ces chrétiens, pour que nous puissions nous comprendre et mettre en pratique. C'est quand nous lisons la Bible, c'est pas faire, vous connaissez cette histoire-là, où quelqu'un cherche la volonté du Seigneur, qui prend sa Bible au hasard, qui tombe sur un verset, et ce verset est dit « Judas prit une corde et alla se pendre ». Et le chrétien a dit « Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta volonté ?» Alors il cherche la volonté de Dieu, il reprend la Bible au hasard, il met son doigt et dit « Va et fais de même ». Donc le petit monsieur là, tout triste, il prend sa corde, il prend sa chaise et puis il met la corde sur un arbre, il se pend et puis pouf, il tombe par terre, il n'a pas réussi à se pendre. Et puis il s'est dit, mais Seigneur, quelle est ta volonté? Je ne comprends pas, tu m'as demandé de prendre une corde, je l'ai fait, tu m'as demandé de faire pareil, je l'ai fait, mais là je suis pas mort, qu'est-ce que je dois faire? Il ouvre sa Bible et tombe, repens-toi. Voilà. Je caricature, mais parfois nous lisons la Bible de cette manière-là. Et pas en essayant de comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu dire au premier lecteur. Je crois que Luc va garder en mémoire cette histoire. C'est pareil. Quand Jésus dit « Si ta main pour toi est une occasion de chute, coupe-la ». Il ne faut pas faire comme Marine Galls dans la petite maison dans la prairie où elle a pris un couteau, le faire chauffer à blanc et vouloir se le couper. Pourquoi Jésus a dit cela? Qu'est-ce que Dieu a voulu dire à son peuple? Qu'est-ce que nous comprenons aujourd'hui? C'est ce que j'ai voulu vous montrer en Pierre, essayer de comprendre quel est le contexte de ce passage-là. Qu'est-ce que Pierre veut dire? Et à partir de maintenant, comment nous on peut le comprendre et le mettre en application. Une prédication biblique, une prédication dite textuelle, est une prédication qui va prendre l'idée principale d'un passage de l'Écriture, va en faire le point principal de notre étude, de notre prédication, et essayer de l'appliquer à notre vie aujourd'hui. C'est essayer de vouloir exposer le sens d'un passage de l'Écriture et essayer de comprendre quelle est la pertinence pour nous aujourd'hui. Et c'est tout. C'est ce que Jésus a fait. Vous prenez les disciples sur le chemin d'Emmaüs qui pleuraient parce que leur maître était mort, etc. Et le texte nous dit, en parcourant les Écritures, il leur a montré tout ce qui était question de Jésus dans les Écritures. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que leurs yeux s'ouvrirent et reconnurent le Christ. Comment lisons-nous la Bible? Est-ce que nous lisons la Bible comme dans ma petite histoire que je vous ai racontée? En cherchant, voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Et puis en ne faisant pas tout ce travail d'essayer de comprendre qu'est-ce que la Bible veut vous dire. Ça ne veut pas dire que tout est facile, il y a des textes qui sont compliqués. Je vous avais parlé d'un Pierre où c'est question de où Jésus est allé aux enfers, enfin est allé prêcher à la génération de Noé. J'ai toujours pas compris ce texte-là, mais voilà, c'est essayer de comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut dire. Donc première marque d'une église en bonne santé, c'est est-ce que notre lecture de la Bible, est-ce que la prédication est biblique dans le sens on essaye de comprendre ce que la Bible veut nous dire, et pas ce que nous aimerions bien y voir ou ce que nous voudrions comprendre. C'est un exercice qui n'est pas facile, mais c'est ça aussi, vivre sous l'autorité de la Bible. C'est pas faire dire à la Bible tout ce que nous pensons qu'elle peut dire, mais qu'est-ce que la Bible veut dire exactement. La deuxième marque d'une église en bonne santé, c'est ce que je pourrais appeler une théologie biblique. Et ça va de pair avec cette première marque, qui est la prédication biblique. Si nous essayons d'avoir une lecture fidèle à la parole de Dieu, une prédication fidèle à la parole de Dieu, nous aurons une théologie qui se veut fidèle à la parole de Dieu. C'est ce que l'Écriture appelle d'une certaine manière la saine doctrine. Qu'est-ce que l'Écriture enseigne? Qu'est-ce que l'Écriture enseigne sur l'Église? C'est ce qu'on essaye de faire. Qu'est-ce que l'Écriture enseigne sur Dieu, sur Jésus, sur le Saint-Esprit? Il y a des choses que enseigne l'Écriture, et puis il y a des choses que l'Écriture n'enseigne pas et que certains enseignent. Et on ne comprend pas pourquoi ils enseignent ça, puisque ce n'est pas dans l'Écriture. C'est un enseignement en conformité avec ce que dit l'Écriture. C'est une façon, encore une fois, de lire la Bible. Elle suppose, et c'est une vision que nous devons avoir quand nous lisons la Bible, quand nous prêchons, quand nous annonçons l'Évangile à nos contemporains, c'est de dire que les multiples auteurs et le nombreux livres qui composent la Bible racontent une histoire inspirée par un divin auteur. Et cette histoire parle de Jésus-Christ. Ça, c'est le grand enseignement de la Bible. C'est être convaincu que la Genèse pointe vers Jésus-Christ, que le Lévitique parle de Jésus-Christ. Avoir une bonne théologie biblique en accord avec la Bible est essentiel afin de garder et de guider notre Église. Elle va nous garder, elle va garder les églises contre des fausses histoires, des mauvaises voies. Elle va guider l'église vers un meilleur enseignement, une meilleure prédication, que ce soit pour moi ou pour vous quand vous annoncez l'Évangile. Ça va nous aider à avoir de meilleures pratiques, hein, Pierre, que notre conduite soit irréprochable. Si nous avons une théologie qui est conforme à la Bible, nous ferons tout notre possible pour que nos conduites soient en accord avec la Bible. On peut dire, tel point, non. C'est plus pour moi. De ne pas aimer mon prochain, de ne pas aimer mes ennemis, c'est trop difficile, je ne l'applique pas parce que, quand même, Seigneur, c'est difficile d'aimer mon ennemi. Non. Plus nous voulons être fidèles à la parole de Dieu, plus l'Esprit nous aide à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est comprendre quelle est la place de tel livre de la Bible dans la grande histoire de la révélation de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez du livre d'Agé qu'on avait lu sur... où le prophète... je crois que c'est Agé... où le prophète invitait le peuple à reconstruire le temple. Et que vous avez dit qu'aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de l'obéissance de ces chrétiens-là, de ces croyants. Puisque eux, ils ne voyaient que la reconstruction du temple, mais Dieu, lui, voyait beaucoup plus loin. Il savait qu'un jour, Jésus allait venir dans ce temple. Quelle est la place d'Ésaïe dans la révélation biblique? Quelle est la place de l'Apocalypse? Quelle est la place de la Genèse? C'est comprendre un petit peu tous les liens qu'il y a entre les différents livres, que c'est pas chaque livre est indépendant, mais que Dieu, dans sa grâce, dans son amour, dans son intelligence, a fait en sorte que toute la Bible se tient et que nous avons une seule et même histoire. Quel est le rapport entre le sacrifice du Lévitique et le chrétien? Si nous avons une bonne théologie biblique, nous comprendrons que les sacrifices dans Lévitique ont un lien avec le sacrifice de Jésus. Mais si nous ne voyons pas cet ensemble, nous ne pouvons pas comprendre. Que dire à propos de la conquête israélite de Canaan ? Pauvres Canaéens qui n'ont rien demandé et que Dieu a demandé de les exterminer. C'est un peu compliqué. C'est quoi le rapport entre nous et la royauté de David et Salomon ? Quel est l'enseignement de l'histoire de David et Goliath ? J'ai entendu des drôles d'enseignements sur David et Goliath. Où je lisais, où le prédicateur ou l'enseignant nous exhortait à abattre les Goliaths qui étaient dans nos vies. Est-ce ça dont parle David et Goliath ? Ou est-ce que c'est pas plutôt le fait que Dieu prend soin, garde Israël ? Quel est l'enseignement de Daniel 1 ? Et souvent on va se focaliser sur le jeûne de Daniel. Est-ce que Daniel 1 est un enseignement sur le jeûne, par exemple ? Si on creuse bien, on se rend compte que ce n'est pas un enseignement sur le jeûne, mais sur un enseignement sur que Dieu dirige l'histoire. La théologie biblique aide les chrétiens à comprendre toutes ces parties de l'Écriture, à la lumière de l'œuvre de Christ vers laquelle elle pointe. Toutes les Écritures pointent vers le Christ. En ayant cette perspective, ça nous aide à comprendre, à voir combien tous les passages de la Bible sont pertinents pour notre vie aujourd'hui. Même les... Et j'avoue, je ne les lis pas parce que c'est... Même dans les chroniques, là, toutes les généalogies, etc. Et souvent, je passe même les généalogies de Jésus. Bon, c'est quoi l'intérêt ? Mais c'est montrer que Dieu a vu tout. Si vous lisez les généalogies de Jésus, vous comprenez l'histoire de Ruth. La Moabite, une étrangère qui se retrouve dans... comment ça s'appelle ? Dans la généalogie de Jésus. Vous comprendrez, je ne sais plus comment elle s'appelle, dans Josué, cette prostituée arabe. On ne comprend pas pourquoi il y a cette histoire de arabe. Et elle se retrouve dans la généalogie de Jésus. Et même dans Hébreu, hein, c'est par la foi que Rahab a accueilli les espions. Quand on voit les choses dans son ensemble, on comprend mieux pourquoi. Avoir une bonne théologie, c'est éviter de faire des erreurs dans notre lecture de la Bible. Comme j'ai dit, quel est l'enseignement de David et Goliath ? C'est pas abattre des Goliaths dans nos vies, ça n'a aucun sens. C'est Dieu est souverain. De Daniel 1, de différents... Voilà, un autre exemple que j'ai entendu beaucoup, c'est la guérison de l'aveugle Bartimée. Et vous avez beaucoup de prédications qui vont juste se focaliser sur le manteau de l'aveugle Bartimée. Alors, qu'est-ce que Dieu a voulu enseigner en parlant de la guérison de Bartimée ? Vous avez posé une question à la fin d'un Pierre. Qu'est-ce que nous gardons de l'enseignement de 1 Pierre pour nous aujourd'hui ? Si vous n'avez pas encore répondu à cette question, enfin pour nous aujourd'hui, pour l'Église aujourd'hui, faites-le. Troisième marque d'une Église en bonne santé, c'est une compréhension biblique de l'Évangile. L'Évangile doit être au centre de nos vies. L'Évangile doit être au centre de nos églises. L'Évangile est le cœur de notre message. La Bible entière oriente vers la bonne nouvelle de l'œuvre et de la personne de Jésus-Christ. Et pourtant, le constat que je fais, c'est que de plus en plus de personnes, et parfois même dans nos églises, ne savent pas ce que c'est l'Évangile. C'est quoi l'Évangile ? La définition de l'Évangile ? Beaucoup essayent d'édulcorer le message de l'Évangile. J'ai entendu des personnes dire « L'Évangile, c'est l'amour de Jésus pour nous. » J'ai dit « Ouais, c'est vrai, Mais est-ce que c'est que cela? J'entendais des personnes qui me parlaient, il faut juste annoncer l'amour de Jésus, que Dieu nous aime, et mettre de côté tout ce qui est le péché, le pardon, la repentance, etc. Ça, c'est difficile. La notion de conversion aussi, on le met de côté. Est-ce que parler du péché ou ne pas parler du péché, c'est dire tout l'évangile? Est-ce que se focaliser que sur l'amour de Jésus, c'est dire tout l'évangile? Est-ce que parler que de la grâce de Dieu pour nous, est-ce que c'est dire tout l'évangile? Jésus n'a pas eu peur de prêcher tout l'évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et un peu plus loin, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui croient ne sont pas jugés, mais ceux qui rejettent la lumière sont déjà jugés. L'évangile, c'est tout cela, c'est l'amour de Jésus. J'ai des chrétiens qui ont dit, il ne faut pas parler de la crucifixion. C'est trop difficile à entendre, à accepter. Mais c'est quoi la crucifixion à part l'amour, le péché? Enfin, l'évangile, c'est tout. L'évangile, c'est dire nous sommes pécheurs. Dieu est en colère contre nous. Nous sommes séparés de Dieu. Mais Dieu a envoyé son Fils. Et nous pouvons être libérés de cette colère de Dieu et cette conséquence de la colère de Dieu si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Si nous reconnaissons que nous avons besoin, que Jésus est mort pour nous à la croix et qu'il nous a pardonné de nos péchés. Et que nous marchons dans une vie nouvelle. Et que je dois demander pardon au Seigneur parce que j'ai crucifié Christ. Ça, c'est l'évangile. Je fais très rapidement, mais parler juste Dieu t'aime, convertis-toi. Comment nous comprenons ce qu'est l'évangile? Comment nous l'enseignons? Est-ce que nous disons qu'une partie de l'évangile ou nous sommes capables de dire tout l'évangile? Est-ce que nous sommes d'accord avec tout l'évangile? Quatrième marque d'une église en bonne santé et qui va de pair avec une compréhension biblique de l'évangile, c'est une compréhension biblique de la conversion. Comment devient-on chrétien? Je pose beaucoup de questions ce matin. Que dit la Bible au sujet de la conversion? Est-ce que la conversion, elle est nécessaire ou optionnelle? Il y a des vraies conversions et des fausses conversions. Et en même temps, c'est un mot qui est mal compris aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui une conversion? C'est j'étais juif, je suis devenu musulman, j'étais musulman, je suis devenu chrétien, ou j'étais catholique, je suis devenu protestant, je suis protestant, je suis devenu. C'est quoi? Qu'est-ce que dit la Bible de la conversion? Est-ce que si vous avez ces grandes campagnes d'évangélisation avec Billy Graham ou comment s'appelle je sais plus, des grands évangélistes, et puis vous pouvez dire une prière. Est-ce que dire une prière fait de moi un chrétien ou je suis converti? Une église en bonne santé, c'est une église qui comprend ce que c'est la conversion telle que la Bible définit. Conversion, c'est une transformation, une métamorphose. Si je me dis chrétien et que ma vie est comme avant que j'étais chrétien, est-ce que je me suis vraiment converti? Cinquième marque, une. Je laisse plein de questions en suspens, mais on va y répondre plus tard. Cinquième marque, c'est une compréhension biblique de l'évangélisation. C'est un mot qui. On a du mal avec l'évangélisation. Hein. Parfois, on se fait de la. Comment dire? On se fait violence pour essayer de faire un truc qui ressemble à l'évangélisation, mais bon, on ne sait pas trop ce que c'est l'évangélisation. C'est un mot qui. Et quand on parle d'évangélisation, on a souvent une vision particulière. On pense à Billy Graham avec des grands rassemblements. On va dire ça, c'est de l'évangélisation. On pense peut-être au parcours Alpha, ou ça, c'est de l'évangélisation. Et puis, on va penser peut-être à un barbecue. On va dire ça, c'est de l'évangélisation. Mais c'est quoi l'évangélisation, finalement? Que veut dire évangéliser? Pardon? Non, mais. Qu'est-ce que dans Acte 2, qu'est-ce que a fait Pierre? Il a prêché, mais en même temps, il a annoncé l'évangile. L'évangélisation consiste à partager à d'autres la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ a fait afin de sauver des pécheurs. On est sur une définition de l'évangélisation, mais pas une manière de faire. Les grands rassemblements, le parcours Alpha, un barbecue, fête de Noël, ou c'est des moyens. Mais vous avez des chrétiens, il faut évangéliser, sinon on n'est pas vraiment converti. Puis d'autres vont dire, bah, Dieu est souverain, on n'a pas besoin d'évangéliser, et puis les gens viendront à notre église. Qu'est-ce qu'enseigne la Bible au sujet de l'annonce de l'évangile? Est-ce que l'évangélisation, c'est tous qui doivent évangéliser ou c'est quelques-uns? Comme j'ai lu, tous sont-ils évangélistes? Donc si c'est que quelques-uns qui sont évangélistes, est-ce que le reste qui ne sont pas évangélistes doivent évangéliser ou pas? Pourquoi j'évangélise? Ou pourquoi je n'évangélise pas? Encore, c'est une église en bonne santé, c'est une église qui a une compréhension biblique de ce que c'est l'évangélisation. Toutes ces marques qu'on a vues jusqu'à maintenant, c'était voilà, plutôt en lien avec l'enseignement. Mais il y a aussi des marques qui concernent l'église en elle-même. Une marque aussi importante, c'est une compréhension biblique de ce qu'est un membre d'une église locale. Alors, en France, c'est un peu compliqué puisque souvent, par-dessus la compréhension biblique d'un membre d'église locale, on a aussi une compréhension administrative. Si on va dire un membre d'église locale, c'est un membre de l'association cultuelle. Ce qui est un peu juste et pas tout à fait, ce qui est un peu biaisé. Dans la Bible, pour être membre d'une église locale, il fallait pas être membre d'une association cultuelle, puisque ça n'existait pas à l'époque. Et parfois, il faut enlever un peu tout ce qui est de l'ordre administratif obligatoire en France, où on nous oblige d'avoir une association loi 1905, et de ce que dit réellement la Bible. Une compréhension biblique des membres d'église, c'est ça, c'est qu'est-ce que cela veut dire participer à la vie de l'église locale? Être membre de l'église locale. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique? Est-ce que l'église est nécessaire? Si je suis chrétien, est-ce que j'ai besoin de l'église? Il y a des chrétiens qui pensent que non. Il y a des chrétiens qui pensent que oui. Comme je dis, en France, nous calquons la définition de membre sur celle de l'administration. Mais appartenir à l'église locale, au corps du Christ, c'est plus qu'appartenir à une association. Et voilà, il y a une compréhension biblique de c'est quoi? Faire partie du corps du Christ. Septième marque d'une église en bonne santé, c'est une compréhension biblique de la discipline d'église. Et là, pareil, le mot discipline peut faire peur. Mais nous faisons déjà de la discipline d'une certaine manière. Quand nous nous exhortons les uns les autres, quand nous nous encourageons les uns les autres, c'est d'une certaine manière une discipline dite positive. Mais quand on parle discipline, on pense tout de suite à la partie négative. Mais ça va de pair avec le précédent. Une discipline d'église, c'est avoir aussi une compréhension juste de ce qu'est un membre d'église locale. Paul savait dans l'église qui était membre de l'église, qui ne l'était pas. Regardez dans 1 Corinthiens. Parfois, il fait des bons. Paul, il était parfois sévère. Mais quand il reprend le, je sais pas comment il s'appelle, le gars qui couchait avec le mari de sa femme, ou je sais plus quoi, enfin, ou la mère de, enfin, vous voyez de quoi je parle. Qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle un petit peu, enfin, il fait de la discipline d'église. Quand Jésus dit, bah, si ton frère a péché, va, reprends-le. Exhortation. S'il ne t'écoute pas, prends un autre frère. S'il ne t'écoute pas, mettez-le devant l'église. Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Et après, il y a toute la question sur le pardon. La discipline de l'église va dire, va poser un cadre sur ce qu'est ou n'est pas l'église, sur ce qu'est ou n'est pas un chrétien, un membre d'église, sur ce qu'est ou n'est pas la sainte doctrine, ce qu'est ou n'est pas une conduite digne de l'évangile. Paul, dans certaines églises, a dû faire rappeler les choses. Vous êtes chrétien, cela implique des conditions. Si vous ne remplissez pas les conditions, c'est que vous avez mal compris ce que c'est l'évangile. Et en même temps, il y a un but à la discipline, c'est de garder l'Église et de faire en sorte que les uns et les autres puissent vivre pleinement ce que dit l'Évangile. La discipline, et c'est vraiment le discours de Jésus dans Matthieu 18, c'est la discipline se fait avec l'amour pour que tout le monde puisse finalement revenir à Christ. Huitième marque d'une église en bonne santé, c'est être et faire des disciples, selon la Bible. Le Seigneur ne nous a pas envoyés à faire des adeptes. Le Seigneur ne nous a pas envoyés à remplir les bancs d'une église. Mais Matthieu 28, le Seigneur... J'entends, hein, j'entends tout. Le Seigneur nous a envoyés à faire des disciples. Et c'est là la différence entre vouloir faire remplir les bancs de l'église et puis faire des disciples. Souvent, on évangélise, on baptise la personne et on est content. Est-ce ça faire des disciples? Et ça parle pour nous. C'est comment nous sommes invités à croître ensemble, à faire grandir ceux qui viennent de découvrir la foi, ou ceux qui sont des vieux retards de la foi, à grandir toujours plus dans le Seigneur, en maturité, en quantité, mais toujours plus à l'image du Christ. C'est vraiment, Jésus insiste sur l'enseignement. Enseignez-les à garder tout ce que je vous, à mettre en pratique tout ce que je vous ai enseigné. Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et on le voit quand les nouveaux chrétiens arrivent, ils sont enseignés dans c'est quoi l'évangile, c'est quoi la saine doctrine, comment nous devons vivre en tant que chrétiens. C'était l'exemple de Pierre qui enseigne ces chrétiens qui vivaient dans un monde hostile, comment ils devaient vivre en tant que chrétiens dans ce monde hostile? C'est comment être finalement, non pas un croyant lambda, un occupant de chaise, mais être un vrai disciple du Seigneur. Et puis, une église en bonne santé, c'est une église qui a une compréhension biblique de la direction d'église. Que dit la Bible sur les responsables d'église, sur leur qualification, qui doit être responsable d'église, leur qualité, leur fonction? Être responsable d'une église, c'est pas être le chef de l'église. On l'a vu la semaine dernière, le seul chef, c'est Jésus-Christ. Un Pierre en avait parlé, hein, de ne pas paître le troupeau pour un gain honteux, non. Ça veut dire quoi? Et la Bible pose des critères sur ce qu'est un responsable d'église, qu'on appelle ancien, qu'on l'appelle diacre, qu'on l'appelle membre du conseil, ce que vous voulez. Mais, encore une fois, il y a des... La Bible dit des choses. Et encore une fois, on a, pareil, une définition administrative qui s'est collée sur notre compréhension de la direction d'église. Alors aujourd'hui, l'administration demande que dans n'importe quelle association, il y ait un président, un secrétaire, un trésorier. Bon, ça ne fait pas de mal à l'Église, mais nous, nous voulons rajouter autre chose. Le conseil de l'Église, c'est... Moi, je fais un lien, ce sont les anciens de l'Église. Quelles doivent être leurs qualités? Même si on a un qui est président, l'autre secrétaire et l'autre trésorier, ça ne fait pas d'eux des chefs, ça ne fait pas d'eux des... L'Église va appartenir, mais quelles sont les qualités, les fonctions de ces anciens, même s'il y en a un qui est président, l'autre trésorier, l'autre... Pourquoi le Seigneur, dans sa parole, a demandé à Timothée de nommer des anciens à l'Église d'Éphèse, ou de nommer des diacres? Et voilà, une compréhension biblique de la direction d'Église. Beaucoup de questions, mais il y a un but à ces marques de l'Église en bonne santé. C'est surtout la gloire de Dieu. Si nous sommes une Église en mauvaise santé, si nous sommes une Église qui ne mettons pas la parole au centre, est-ce que nous rendons gloire à Dieu ? Si nous sommes une église où nous ne reprenons pas ceux qui se disent chrétiens mais qui vivent comme le monde vit, est-ce que nous sommes une église à la gloire de Dieu? Si nous ne réfléchissons pas à ce qu'est un membre d'église, est-ce que nous reflétons la gloire de Dieu? Encore une fois, les marques d'une église sont des indicateurs de savoir si oui ou non nous sommes en bonne santé. Ça ne veut pas dire que nous serons une église parfaite. Mais c'est de vouloir plus en plus être une église conforme au modèle que le Seigneur veut nous laisser. Et surtout faire connaître le Seigneur. Ah, peut-être vous avez dit, mais t'as pas parlé de l'amour fraternel. Mais l'amour fraternel va être dans la compréhension biblique de ce qu'est un membre local, d'une église locale. Ça va rentrer dans la discipline d'église. J'ai pas parlé du baptême ou de la Sainte-Cène, par exemple, mais ça rentre dedans. Que le Seigneur nous bénisse, nous garde. Est-ce que vraiment que nous devons retenir, c'est que voilà, la parole de Dieu puisse être vraiment centrale et que nous puissions comprendre ce que le Seigneur a voulu dire pour que nous puissions appliquer. Et non pas, encore une fois, cette petite histoire que Luc va raconter à son église. Non. Voilà. Voulons-nous être une église à la gloire de Dieu et qui fasse connaître Dieu à nos contemporains? Si nous le voulons, regardons un petit peu ces constantes de l'église que je vous ai évoquées. D'abord en église nous-mêmes et chacun de nous. Est-ce que j'ai une lecture biblique de la parole de Dieu? Est-ce que je comprends ce que c'est l'évangile? Est-ce que j'ai compris ce que c'était être membre de l'église locale? Est-ce que je comprends ce que c'est la discipline? Est-ce que ces constantes sont valables pour nous ensemble, mais aussi moi individuel? Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Et les prochains dimanches, nous allons rentrer un peu plus en profondeur dans, voilà, c'est quoi la prédication? Quel est le but de la prédication? Pourquoi on doit prêcher? Et c'est pas que moi. Quand vous annoncez l'évangile à vos contemporains, vous faites de la prédication. La prédication ne se limite pas que le dimanche matin pendant je ne sais pas combien de temps et vous avez un monsieur devant vous qui parle. C'est pas que ça. Vous prêchez aussi à vos contemporains. Prêcher, c'est dire, expliquer la parole de Dieu. Mais on verra que ce sont tout ça des éléments importants pour notre vie d'église et nous allons rentrer un petit peu plus dans le détail. Que le Seigneur nous bénisse.